Voilà, bien, nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur et je vous propose de faire une lecture, la première tout au moins, d'autres suivront ensuite. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 18, et même la moitié du verset. Voilà, Hébreux chapitre 6, verset 18. Il est écrit: nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Si vous voulez, là où Jésus nous a précédés. Voilà, il est question, dans ce passage, de quoi ? De l'espérance. De l'espérance chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est ça que l'espérance? Souvent, dans la parole de Dieu, il y a des textes qui font référence à l'espérance. Eh bien, l'espérance chrétienne, c'est bien plus qu'un simple espoir. Vous savez, des fois, les gens disent « j'espère ». Je voudrais bien. Peut-être ça arrivera, mais peut-être pas. Mais l'espérance chrétienne, c'est bien supérieur à ça. C'est la certitude que nous possédons là, au fond de notre cœur, une certitude ferme, inébranlable, une ancre de l'âme, dit le texte, sûre et solide. C'est la conviction, sans l'ombre d'un doute, que possède le vrai croyant. Oui, parce que pour avoir l'espérance, il faut être un vrai croyant. Il faut être un véritable disciple de Jésus. Être un vrai chrétien, non pas de ceux qui disent « je suis croyant mais pas pratiquant », etc. Non, non, un vrai disciple de Jésus. Certitude et conviction qu'un jour, eh bien, le chrétien que nous sommes ira rejoindre son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Alléluia, c'est ça l'espérance. Vous voyez, c'est cela, et c'est rien d'autre. La certitude, la conviction que le Seigneur lui-même viendra le chercher pour l'amener avec lui. Le Seigneur Jésus a fait une déclaration remarquable dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 1er. Voilà, il est là, dans ce dernier repas qu'il partage avec ses apôtres avant d'être crucifié dans quelques heures. Et voici ce qu'il leur dit au cours de ce souper: que votre cœur ne se trouble point. Voilà, restez calme, restez serein, restez paisible, restez convaincu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pas formidable, ça? Eh bien, c'est ça, l'espérance, vous voyez. C'est être convaincu que le Seigneur, comme il le promet dans ce texte, va venir un jour, nous, croyants, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous chercher pour nous prendre avec lui, afin que là où il se trouve, où ce qu'il se trouve, dans le ciel, nous y soyons aussi. Voilà. Le croyant qui est en possession de cette espérance, il sait qu'il a la vie éternelle. Non pas il suppose, mais il sait qu'il a la vie éternelle. Vous savez, souvent, ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui, je ne sais pas moi, sont catholiques ou autre chose. Alors, les arguments d'un côté, les arguments de l'autre, tout y passe. Et puis, quand on n'arrive pas à sortir de ce débat, de cette confrontation, m'est arrivé souvent de dire, bon, mais écoutez, on va arrêter là la discussion. Simplement une question. si vous devez mourir là, à l'instant, je ne vous le souhaite pas, mais supposons, où iriez-vous? Où iriez-vous? Alors, la plupart des gens auxquels j'ai posé cette question, à part les chrétiens comme vous, hein, les gens convertis à Jésus, ils m'ont dit, c'est pas trop. J'espère que le Seigneur voudra de moi, mais je ne suis pas trop sûr. Si une fois, dans un petit village du sud-ouest, où nous tenions un stand biblique, je dis à une dame qui passait, « Madame, êtes-vous sauvée ?» Elle me dit « Oui ». Alors je dis à tous les coups, elle va te dire « Parce que j'ai fait du mal à personne, parce que je vais à la messe tout le dimanche, parce que... » Alors je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que je crois à Jésus-Christ et à la miséricorde de Dieu. » Eh bien, que Dieu vous bénisse, je n'avais plus rien à dire. Hein. Vous voyez, cette femme, elle avait cette certitude. Hein. Je ne sais pas quelle était sa confession religieuse, mais peu importe. Elle avait la bonne réponse à la bonne question. Voilà, le croyant, le vrai, qui est en possession de cette espérance, il sait qu'il a la vie éternelle. L'apôtre Jean, dans l'une de ses épîtres, au chapitre 5, premier épître de Jean, chapitre 5, verset 13, nous dit ceci, normalement ça devrait s'afficher si les gens de la technique sont réactifs. Premier épître de Jean, chapitre 5, et le verset 13, il est écrit, c'est l'apôtre Jean qui dit cela, inspiré par le Saint-Esprit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Non pas que vous supposiez, non pas que vous pensiez que peut-être, mais que vous sachiez, que vous soyez convaincu que vous avez la vie éternelle. Vous êtes en possession de la vie éternelle. C'est une assurance intérieure qui est communiquée aux croyants, communiquée par le Saint-Esprit. Une assurance qui atteste qu'il est devenu un enfant de Dieu, que Dieu l'a adopté dans sa grande famille, et qu'ainsi, à ce titre, il est devenu son héritier. Et oui, parce que quand nous avons Dieu pour Père, nous sommes les héritiers de Dieu. Non, c'est comme ça que ça marche. Un fils hérite de son Père. Eh bien, quand nous devenons enfants de Dieu, et que Dieu devient notre Père, nous sommes les héritiers de Dieu. Et cet héritage, répétons-le, c'est la vie éternel. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 5, nous dit ceci, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la plus grande de toutes les promesses. Hein? La parole de Dieu, la Bible peut être considérée comme un livre de promesses. Comme un livre de promesses. Et quelqu'un dira, c'est comme un carnet de chèques. Vous voyez, carnet de chèques. Et que Dieu a signé tous les chèques avec toutes les promesses que la parole contient. Mais la plus belle de toutes les promesses, c'est celle-là. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 3, voilà, on passe en revue quelques textes de l'Écriture. Voici ce que l'apôtre Pierre, tout à l'heure c'était l'apôtre Jean, maintenant c'est l'apôtre Pierre, nous dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, c'est-à-dire nous a fait naître de nouveau et nous a sauvés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui vous est réservé dans les cieux. » Alléluia. Dans les cieux. L'apôtre Paul, encore un autre apôtre, vous voyez, ils sont différents, mais ils nous disent tous, sous des formes différentes, la même chose. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, Paul dit ceci, deuxième aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Voilà, si quelqu'un était découragé ce soir, reprenez courage. « Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, se détruit. Et oui, on vieillit, on prend des rides et puis tout ce qui va avec. Hein. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, notre âme, notre vie spirituelle se renouvelle du jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente, notre corps c'est comme une tente, vous avez fait du camping ? Une tente, on la plie, on la démonte, on la remonte. Ben, un jour, mes amis, la tente de votre corps sera démontée. Vous allez décamper. Hein? Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. Paul, dans un autre passage, dans les Philippiens, au chapitre 3, verset 20, dira ceci, notre cité à nous, elle est dans le ciel. Alléluia. Hein? Tu peux habiter Annecy, je ne sais pas, moi, Faverges, Paris, New York, Londres, ou ailleurs, mais ça, ce ne sont que des cités temporaires que nous occupons brièvement. L'Écriture dit que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Vous voyez comme Abraham qui allait d'un lieu en lieu. Mais notre cité définitive, notre destination finale, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui reviendra et qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Des corps tout neufs. Alléluia. Plus de rhumatisme, aïe, 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 hein? Plus de vision qui baisse, hein? Nous serons en pleine forme, gloire à Dieu. Alors, possédant cette espérance, le croyant peut désormais regarder la mort en face, sans plus aucune crainte. Regardez ce brigand sur la croix. Il est déjà mort de peur. Il dit à son collègue qui insulte le Seigneur, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Alors, s'il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu ?», c'est que lui craignait. Mais tout change. Quand il se tourne vers le Seigneur, il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et je suis sûr que cet homme, il est parti dans une paix parfaite. Il a pu mourir en paix. Le Seigneur lui promet le temps, maintenant, aujourd'hui, tu seras avec moi, la meilleure des compagnies. Et puis il lui promet un lieu merveilleux dans le paradis. Maintenant, avec moi, dans le paradis. Avec ça dans le cœur, on peut partir en paix. J'ai vu des croyants partir dans une paix, j'allais dire royale. Hein? Voilà, comme lui, l'apôtre Paul. Bon, ce n'est pas le même parcours que le brigand. Il arrive à la fin de sa vie, il va subir le martyre, on va lui couper la tête. Mais il dit dans la deuxième à Timothée au chapitre 4, voilà. Enfin, je le dis comme ça, moi. Je suis au bout du rouleau. C'est fini. Il ne me reste pas longtemps à vivre. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Aïe, il ne dit pas aïe, 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 catastrophe. Il n'est pas aigri, amer, triste, désabusé. Pourtant, il est en prison. Il est seul. Il fait froid, les conditions sont déplorables. Le Seigneur me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia, j'y crois au ciel. Vous y croyez aussi? Eh oui, c'est ça le but de la vie chrétienne. C'est ça. Vous savez, sans cette espérance dont nous parlons cet après-midi, la vie sur la terre est fade. Elle est vide de sens. Elle est dérisoire, sans but. Et les plaisirs, les quelques plaisirs auxquels on peut goûter ici-bas, sont illusoires. Même quand ce sont des plaisirs légitimes, ils sont temporaires. On dit qu'ici-bas, les meilleures choses ont une fin, et c'est vrai. Même quand nous goûtons à quelques instants de bonheur, c'est fugace, c'est fugitif. Vous voyez ? Je prends souvent cette image, quand on était gamin, on a tous fait ça. sur la plage, prendre une poignée de sable, serrer très fort. Le sable te coule entre les doigts. Quand tu ouvres la main, il n'y a plus rien. Ben c'est ça la vie sans le Seigneur. Voyez, c'est pour ça que, hein, aux jeunes et aux moins jeunes, eh bien, le Seigneur donne ce conseil dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est Salomon, certainement, au soir de sa vie ou quelque chose comme ça, qui a écrit ça au chapitre 12. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon le regard de tes yeux. Mais sache, ah, n'oublie pas ça, que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent, ils arriveront. Ils arriveront. Je parlais tout à l'heure avec Stéphane, qui est à la sono de ma belle-mère. C'est une femme sportive. Aujourd'hui, elle est au bout du rouleau. Elle n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, la pauvre, hein, à 90 ans. Voilà, les jours mauvais sont arrivés, vous voyez. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Je n'y prends point de plaisir. Et un peu plus loin, il dit, avant que le cordon d'argent se détache, vous voyez, c'est une image de la mort, ça. Que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Et il y a un refrain dans ce livre de l'Ecclésiaste qui revient. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite. La vanité, c'est la qualité, l'état de ce qui est vide de sens. C'est Salomon qui pourtant a connu toutes les jouissances qu'un homme peut connaître sur la terre, dira, voyez, les amis, sans l'espérance, la vie, elle est vaine, elle est illusoire, elle est trompeuse. Hein? Voilà, elle n'a pas de valeur en soi. Et cela d'autant plus que la vie terrestre sera suivie du jugement. Car il est écrit, Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le jugement qui aura pour effet, pour résultat, la condamnation pour ceux qui n'auront pas pris soin de se réconcilier, de faire la paix avec Dieu. Avez-vous, amis, fait la paix avec Dieu? Avez-vous demandé qu'il pardonne vos péchés? Avez-vous invoqué son nom pour qu'il vous fasse grâce? Oh, je n'ai pas péché. Ou alors si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut plaider coupable. Même si tu n'avais commis qu'un seul péché, ça te suffirait pour que te disqualifier entièrement aux yeux de Dieu, car l'Écriture dit que celui qui pêche contre un seul des commandements, c'est comme s'il avait péché contre tous. Contre tous. Alors, désirons-nous? Voulez-vous? Aspirez-vous à recevoir une telle espérance? Elle vous est proposée, on l'a lu tout à l'heure, Hébreux 6. Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alors, la saisir, la prendre, s'en emparer, la vouloir, la désirer, hein, elle est proposée. Je dirais, l'espérance chrétienne que nous venons de définir brièvement, elle est à portée de main. Gloire à Dieu, elle est à portée de main. Quelqu'un cet après-midi peut recevoir l'espérance. Espérance. Le plus grand désir de Dieu, c'est de vous communiquer cette espérance. L'Écriture dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que tous les hommes puissent être en possession de cette merveilleuse espérance, de cette merveilleuse certitude de pouvoir un jour le rejoindre dans le ciel. Dieu le veut. Tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que Dieu respecte ce que nous pourrions appeler notre libre arbitre, notre choix, notre décision. Il propose, il n'impose pas, il propose. Il met à notre disposition, c'est à toi de dire oui ou de dire non, d'accepter ou de refuser. de recevoir ou de négliger. Mais si tu veux, c'est possible. En tout cas, Dieu le veut. Alors, voulez-vous la recevoir, cette espérance? Voulez-vous la recevoir si vous ne la possédez pas? Comment la recevoir? Comment la posséder, cette espérance? Elle est tout d'abord le résultat de ce que Jésus a fait. Alléluia. De l'œuvre de Christ. Regardez, dans l'Épître aux Hébreux, nous avons lu tout à l'heure, au chapitre 2, au verset 14, il est écrit quelque chose de fort important à ce sujet. Hébreux, chapitre 2, et le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Voilà, Jésus a pris un corps semblable au nôtre. Hein? Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par sa propre mort, et par la résurrection qui en a suivi, Jésus a triomphé de la mort et nous donne la possibilité d'en être délivrés. Alléluia, il est écrit là. Il est écrit, n'est-ce pas? Eh bien, par la mort, il anéantit ou il réduit à l'impuissance celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est formidable, un chrétien qui part avec l'espérance dans son cœur, parce qu'il est paisible et serein. Je l'ai vu. Mais c'est terrible quand quelqu'un part sans avoir cette espérance. Hein? J'ai déjà signalé ce fait, on raconte, ça doit être vrai, que l'infirmière qui a assisté Voltaire, connaissez Voltaire, ce philosophe qui s'est moqué de Dieu, qui a tourné en dérision la Bible. Il dit que cette femme, cette infirmière qui l'a assisté dans ses derniers instants, disait « Plus jamais je ne voudrais assister à la mort d'un incroyant. » Parce qu'il était terrorisé. Et à juste titre, hein. Oui, il était loin d'avoir fait la paix avec Dieu, alors quelque chose en lui lui disait que ça y est, il s'apprêtait à plonger dans cet abîme de tourment que nous appelons l'enfer, la crainte de la mort. Mais le chrétien peut être serein, paisible. L'apôtre Paul pourra dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est une drôle de parole, ça. Je perds rien en mourant. Je gagne le ciel. Alléluia. Je retrouve mon sauveur. Alors la mort m'est un gain. Et pour qu'il en soit ainsi, pour que nous soyons délivrés de la crainte de la mort, pour ne plus être retenu dans cette servitude, cette captivité, Christ a donné sa vie sur la croix. Et par sa propre mort, il a triomphé de celui qui a la puissance de la mort. Au moment où le diable peut-être pensait avoir remporté la victoire en disant « Ça y est, j'ai réglé son compte, je me suis débarrassé de lui. » Jésus triomphait. Il triomphait pour nous. Alléluia. Il a porté le poids de nos péchés. Il a pris sur lui notre propre condamnation et il a ainsi rendu possible le pardon de nos péchés. Vous avez le droit de dire Amen. Sa résurrection, c'est la preuve que Dieu a reconnu la valeur de ce sacrifice. Et ainsi, la vie éternelle nous est offerte. Amen. Ce n'est pas la vie éternelle, tu la mérites. Ce n'est pas la vie éternelle, tu la reçois pour tes bons et loyaux services, tu ne la mérites pas. C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'il est écrit, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, ça c'est ce que tu mérites. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc comme tu es un pécheur, tu mérites la mort. C'est ton salaire. C'est ce qui, normalement, devrait être ton dû, hein, la mort. Le jugement, la condamnation, le salaire du péché, c'est la mort. Mais notez la différence. La suite du verset dit, mais le don gratuit Là, ce n'est pas le salaire. C'est le don gratuit. C'est ce que tu ne mérites pas. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il a tout fait. Gloire à Dieu. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé. Au moment où ses adversaires se frottaient les mains, c'est fini. Il a réglé son compte, on s'est débarrassé de lui. Ils l'ont mis dans un tombeau, ils ont quand même mis les scellés sur la pierre. Mais quand l'ange est venu, les scellés, ils ont sauté. La pierre a été roulée. La pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus de sortir du tombeau. Il était déjà sorti. La pierre a été roulée pour démontrer qu'il n'était plus à l'intérieur, qu'il était vivant. Alléluia. Il avait vaincu, la mort vaincue pour nous. Mais s'il a tout fait, il y a quelque chose qui nous reste à faire. Voyez, il y a une part de l'homme. Non pas que nous méritions, mais il y a une démarche spirituelle qu'il faut entreprendre pour entrer en possession de l'espérance. Il te reste quelque chose à faire afin que ce que Jésus a fait pour toi devienne vrai en toi. Il te reste quelque chose à faire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 15, il dit que Jésus a commencé à prêcher. Voilà, il a abandonné pour toujours l'atelier de charpentier de Nazareth, où il avait travaillé pendant bien des années en compagnie de son père nourricier, Joseph. Oui, c'était le charpentier du village. Il a laissé tomber la scie, les gobines, le ciseau à bois, le maillet, le rabot et tout le reste. Et il a commencé à parcourir les chemins du pays d'Israël. Et son message était le suivant. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. 20 siècles après, c'est le même message. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repens-toi, ami, si ce n'est pas déjà fait. Confesse ton péché. Abandonne-le. Laisse-le tomber comme un lourd fardeau que tu déposes aux pieds de Jésus pour ne plus jamais le reprendre. Alléluia. Renonce au mal que tu as commis jusque-là et crois de tout ton cœur que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour que toi tu vives. Amen. Et que tu vives éternellement. Que tu vives éternellement. Alors, l'espérance viendra dans ton cœur. Gloire à Dieu. Vous la voulez, cette espérance? Ben voilà, le chemin est trop tracé. Repends-toi, humilie-toi, confesse ta misère, ton péché, ta culpabilité, ton égarement, ta folie, tes fautes au Seigneur. Demande-lui pardon. Renonce à tout ce que tu sais être mal. Et puis crois, fais confiance, crois que Jésus, donnant sa vie au calvaire, a le pouvoir de te sauver entièrement. Et tu recevras l'espérance. L'Écriture dit que c'est une bonne espérance. Une bonne espérance. Ailleurs, il est dit encore, une espérance qui ne trompe pas. Une espérance qui ne trompe pas. Sur la terre, il y a des gens qui nous trompent, n'est pas vrai ? Ça vous est jamais arrivé de vous dire « je me suis fait avoir ». Chez moi, on dit, je ne sais pas si on dit ça en Savoie, « je me suis fait rouler dans la farine ». Hein ? Parce que les hommes sont trompeurs, ils sont décevants. Ma foi, ma confiance était mal placée. Mais avec le Seigneur, on ne court pas ce risque. Il nous donne une bonne espérance. Une espérance qui ne trompe pas. Jésus viendra vivre en toi par son esprit. Alléluia. Et l'Écriture dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire du ciel. Qu'est-ce que les hommes sont prêts à faire pour avoir la gloire, hein? C'est pas possible, hein? Ils trichent, ils mentent, ils volent. T'as entendu ce champion américain là, de cycliste, comment il s'appelait? Hein? Voilà Armstrong. 6 fois il avait gagné le Tour de France. Du bidon. Rien de vrai. Quand la journaliste lui a posé cette question, est-ce que vous avez triché? Elle a été obligée de dire oui. De tous les coups. Et il a perdu sa gloire. Hein? Et finalement, lui qui avait été élevé au pinacle, il a fini dans la honte, dans le déshonneur. La gloire humaine. Hein? Eh bien, mes amis, avec le Seigneur, c'est pas ça. C'est une gloire céleste qui nous attend. Il n'y a pas de tricherie possible. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de possibilité de financer, de combiner. Combinazione, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Non, non, non. Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance, le ciel. Oh, gloire à Dieu pour cette espérance. C'est formidable d'avoir ça dans le cœur. Vous ne trouvez pas? Eh oui, c'est formidable d'avoir ça dans le cœur. Ça ne veut pas dire que plus de soucis. Non, non, tout à l'heure on l'a lu, hein, mais Paul dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les douleurs, les souffrances, les combats, les luttes, les tentations, les épreuves que nous pouvons traverser ici-bas, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés, peut-être encore moins épargnés que les autres, eh bien, seront suivis de la gloire éternelle. C'est l'espérance. Cette espérance, elle est là, à portée de main. Il n'y a qu'un geste à faire, ouvrir son cœur, et l'espérance remplisse ta vie. Alléluia. Faites-le, mes amis. Vous savez, devant une assiette pleine, on peut encore mourir de faim. Reste quelque chose à faire. Il faut prendre la cuillère ou la fourchette et puis la plonger dans le plat, la ramener à la bouche. Si tu ne fais pas ça, tu peux continuer à mourir de faim devant une assiette pleine. Et il y a des gens, ils sont comme ça. Toute leur vie, ils entendent l'Évangile et ne se décident jamais pour le Seigneur. Je me rappelle, c'était au début de mon ministère, il y avait une dame qui venait aux réunions. Ça faisait, dites-moi, oh là là, je crois 38 ans qu'elle a entendu l'Évangile. Elle ne s'était toujours pas décidée. Mais ces gens-là, ils s'amassent un trésor de colère. Alors, je n'allais pas par quatre chemins, hein, parce qu'au point où on a été, je lui passais pas de la pommade. Je lui dis, vous êtes perdus! Vous allez en enfer! Elle me regardait, vous croyez? Mais oui, non seulement je crois, mais je suis convaincu. Quelle tragédie de rester ainsi insensible. Recevez la grâce de Dieu. Entrez en possession de l'espérance que le Seigneur veut vous communiquer. Maintenant. Amen. Allez, on prie. Et là, pendant ce moment, allez, dites-lui, Seigneur, voilà, regarde. Oh, toute cette boue, toute cette souillure, tous ces péchés que j'ai commis dans ma vie, même si je suis pas un gangster, je suis un pécheur. Seigneur, à toi, rien qu'à toi, je le confesse, je l'avoue, pardonne-moi.